Bonsoir. Vous êtes sans doute surpris de me voir devant vous pour vous raconter l'histoire de Belgique, moi. Autant vous l'avouer tout de suite, je ne la connaissais pas, l'histoire de mon pays. Bah, c'est comme ça. C'est en préparant cette série que je l'ai découverte. C'est une histoire, mais passionnante. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je la partage avec vous. Parce qu'elle est à nous, cette histoire, et qu'elle m'a fait comprendre que nous avions tous de l'importance. Parce que c'est l'histoire des gens, de leur génie, de leur force, de leur médiocrité aussi. L'histoire que je vais vous raconter, c'est la vôtre, la mienne, celle de tous ceux qui nous ont précédés sur cette terre. À l'heure qu'il est, ils échangent peut-être quelque part des sourires ou des regrets. Ils ont fait notre histoire, une histoire longue et turbulente que je vous propose de commencer en 1813, bien avant la Révolution. Vous allez comprendre pourquoi. Venez, suivez-moi. En ce temps-là, le vent poussait les voiliers sur les mers. On se racontait des histoires de pirates, de cartes au trésor et d'îles mystérieuses. Nous sommes donc en l'an 1813. Et le premier personnage de notre histoire, c'est Guillaume Ier d'Orange-Nassau. Et c'est un Hollandais. Au moment où je vous parle, la frégate sur laquelle il est embarqué s'approche de la plage de Scheveningen sur les côtes de Hollande. Il n'oubliera jamais cette belle journée d'automne. Son émotion est intense. Vous pensez bien, il retrouve son pays après 20 ans d'exil en Angleterre. Quand il débarque sur la plage de Scheveningen, on l'accueille, on l'acclame, il sera roi. Il le sait, et son peuple le souhaite. Guillaume Ier a été éloigné de son pays. Il maudit encore Napoléon qui l'avait rejeté vers l'Angleterre. Mais il n'a jamais oublié les allures paisibles de la Hollande. Un pays que l'eau et le vent ont assagi. Guillaume Ier ne revient pas la tête vide. Il est chargé d'une mission secrète qui aurait dû l'effrayer. Tenez, observez-le bien. Il a dans le regard comme une appréhension. Au même moment, chez nous, surgissant des plaines d'Europe de l'Est, des Cosaques. Terrible! Personne n'en avait jamais vu. C'est ahurissant. Mais qu'est-ce qu'ils font dans nos rues? Eh bien, ils chassent les derniers occupants français. Et ils ne sont pas les seuls à le faire. On voit des Autrichiens, des Prussiens, des Suédois, des Anglais, tous unis contre Napoléon. Ils ont des armes étincelantes qui impressionnent tout le monde. Je vais vous demander un peu d'attention. Les armées alliées ont chassé Napoléon. Il a perdu la partie et il se retrouve sur l'île d'Elbe. Voilà pourquoi Guillaume Ier est revenu. Allez, je vous emmène à Vienne. C'est là qu'on décide du sort de l'Europe. On redessine les cartes. Et pour nous, les Belges, ce sont les grandes puissances qui vont imaginer une solution totalement inattendue. Nous allons être unis à la Hollande. La mission de Guillaume apparaît alors au grand jour, puisque c'est lui qui sera le roi de ce nouveau pays. Le royaume uni des Pays-Bas qui doit servir de rempart contre la France. Et précisément, Guillaume est à Vienne en 1815. Et à Vienne, c'est la fête, tous les jours, pendant près d'un an. On n'a jamais vu autant de têtes couronnées. Toutes les cours d'Europe sont à Vienne. Et on s'amuse, vous pensez bien. On mange, on boit, on valse. La défaite de Napoléon, mais ça s'arrose, on ne va pas s'en priver. Mais le loup est de retour, sans bruit, à marche forcée, avec 40 000 hommes. Napoléon est à Waterloo. Là où il est, à la ferme du Caillou, la veille de la grande bataille, il regarde la plaine. Il doute. C'est la première fois. Un pressentiment. Un orage terrible a éclaté durant la nuit. Ce matin, il ne pleut plus. Mais les champs sont détrempés. Il pense à ses grenières épuisées. Ils n'ont plus rien à manger, plus rien à boire. Il savait qu'il n'allait pas au combat avec le meilleur de ses forces. Il commet une ou deux erreurs. Et les Anglais de Wellington et les Prussiens de Blücher lui infligent une correction définitive. Ce fut un carnage. Chaque épi de blé est un homme mort. En hommage à la victoire et aux 50 000 vies sacrifiées, les armées alliées élèvent la butte du lion. La plaine de Waterloo est rendue au silence. La paix est revenue. L'Europe retrouve la sérénité. Guillaume redécouvre son pays natal, ses marins intrépides et ses commerçants qui ont été jusqu'en Indonésie pour fonder la compagnie des Indes néerlandaises. De religion protestante, les Hollandais sont plutôt respectueux des conventions. Peu nombreux sur cette sorte de radeau entre terre et mer. 2,5 millions à peine. Guillaume est à l'image de son pays. Calculateur et déterminé. Ses ouvrages préférés, ce sont les bilans de société. Il parle peu. Il compte même ses mots. Son royaume est une entreprise. Le 21 septembre 1815 à Bruxelles, c'est le grand jour. Guillaume Ier va prêter serment devant les Belges. Le ciel retentit de ça un coup de canon. Les rues sont noires de monde. Les gens sont curieux, plus qu'enthousiastes. On voudrait bien voir à quoi il ressemble ce roi de Hollande. Bah tiens, de l'intérieur de la calèche qui l'emmène vers la place royale, Guillaume observe les Belges. Il les trouve méfiants. Et il a raison. Les Belges sont catholiques dans leur majorité. Ils ne font pas confiance à un protestant. Attisés par les curés, les rumeurs courent. Est-ce qu'on ne va pas être obligé de parler néerlandais? Guillaume Ier prête donc serment en néerlandais. Il fait jeter sur son passage quelques pièces de monnaie de peu de valeur. Kopron Koning, c'est un roi fauché, crient les enfants. Mais c'est une évidence. La cérémonie manque de ce petit quelque chose qu'on attendait et qu'on n'a pas eu. Sur cette gravure qui le représente, on distingue sa couronne. Là, en bas à gauche. Les gens ont bien vu qu'elle n'est pas en or, mais en bois doré. Et que les pierreries, pof, c'est du toc. Et nous, les Belges, qu'est-ce qu'on a eu à dire là-dedans? Eh ben rien. Forcément, on n'a pas le droit de vote. On n'était pas d'accord. Mais on a dû la fermer. Nous sommes devenus les provinces du Sud. On se retrouve avec un roi qui ne parle pas notre langue, qui est protestant, et sur les 10 ministres de son gouvernement, un seul. Vous m'entendez? Un seul est belge. Nous sommes amalgamés aux Hollandais. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Et nous sommes les plus mal servis. Oh non, mais ça commence fort. Un nouvel État, nouvelle frontière. On redessine les cartes de géographie. C'est l'occasion de voir à quoi ressemblaient les provinces du Sud, c'est-à-dire la Belgique à cette époque. Quand Guillaume traverse notre pays, c'est la Meuse qui attire son attention. C'est une voie de communication indispensable pour les transports des marchandises. La Meuse assure la jonction entre les deux entités des Pays-Bas. Intéressant. Guillaume pense commerce avant toute chose. Très vite, il comprend l'importance stratégique de Liège. C'est une grande ville au passé turbulent. On lui a dit qu'ici, les esprits sont indépendants. Alors, prudence. À cette époque, un seul pont sur la Meuse, le pont des Arches, et 50 000 habitants. Seule la rive gauche est construite. Curieusement, Liège lui rappelle l'Angleterre. Charleroi est une toute petite ville. Elle est toujours entourée des fortifications que Vauban lui a construites. Dans les environs immédiats de la ville, on extrait le charbon. Avec la Sambre qui rejoint la Meuse à Namur, les provinces du Sud disposent de larges voies d'eau. Il faudra en créer d'autres, pense Guillaume. Ces provinces du Sud ne manquent pas d'atouts. Sans compter le port d'Anvers. Son rôle est capital. Dans les nouvelles frontières, l'embouchure de l'Escaut et Anvers appartiennent aux Pays-Bas qui comptent désormais un nouvel accès à la mer. Guillaume va passer une partie de son temps à parcourir Bruxelles et les villages qui l'entourent pour prendre la température. Il s'attarde à bavarder avec les gens. Incognito, sympathique. Bruxelles est une grosse ville, bien sûr. Des bâtiments prestigieux, des édifices religieux remarquables, comme Saint-Michel et Gudule, que l'on distingue sur le haut de la colline. La flèche de l'hôtel de ville, en bas, à droite. Mais la plupart des rues sont en terre battue. La campagne n'est jamais bien loin. Les façades des maisons sont repeintes chaque année. Il y a des blanchisseries partout. Ça sent bon, la lessive. Dans les années 1815, Bruxelles compte 75 000 habitants. Parfois, c'est la grande foule le dimanche, comme ici, quand il y a des attractions. On voyage peu. Rendez-vous compte, 50 heures de diligence pour aller à Paris. En hiver, les bourgeois de Bruxelles sortent leurs traîneaux. Guillaume, alors, a l'impression de se retrouver à Amsterdam. Bien entendu, c'est vers la Grand Place que l'on est attiré. Sur le marché, on rencontre tout le monde et on trouve de tout. Des fruits, des légumes, de la quincaillerie et des pickpockets. Qui rôde aussi rue de l'étuve où le mannequin pisse est un ouvrage indifférent à la curiosité des gens. Ici, nous sommes au port de Bruxelles, à proximité de l'actuelle place Sainte-Catherine. Les grues déchargent les bateaux. Beaucoup d'activités à Bruxelles qui exportent sa dentelle partout dans le monde. On fixe les prix ici à la halle au drap. Et la dentelle, ce n'est pas donné, croyez-moi. Bon, Guillaume a fait le tour de la question. Il doit mettre un peu d'ordre dans ses idées. Que se passe-t-il dans l'esprit de cet homme lorsqu'il arpente les couloirs de son palais? Il se souvient de cette mission qu'on lui a confiée et qu'il doit accomplir maintenant. Mais comment va-t-il faire pour relancer l'économie, pour donner du travail à tout le monde? Il a été impressionné par l'industrie anglaise et son ambition, c'est de créer une Angleterre sur le continent.